Merci Mathieu Laurent. On vous retrouve à 9h pour le prochain journal. Il est maintenant 8h12 sur France Culture. Bienvenue dans le secret des sources consacré cette semaine à l'info horizontale ou comment se reconfigure notre rapport à l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Antoine Mercier.
Le matin, je n'écoute plus la radio. En sortant de chez moi, je n'achète plus de journaux. Quand je rentre à la maison, je n'allume plus la télévision. Et pourtant, à toute heure, je continue de m'informer, mais par d'autres canaux, ce que je trouve sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dans le secret des sources, donc ce matin, focus sur ces nouveaux modes d'accès à l'information et aussi, bien sûr, sur la manière dont ils modifient notre rapport au monde, avec, dans ce studio, le sociologue André Gunther, maître de conférences à l'EHESS, Aude Baron, qui est rédactrice en chef d'Eurosport.fr, Thibaut Henneton, responsable du site du Monde Diplomatique, et nous sommes aussi en compagnie cette semaine d'Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias et chroniqueuse au Secret des sources. Bonjour André Gunther.
Bonjour.
Pour commencer, j'aimerais bien revenir avec vous sur une petite expérience personnelle que vous racontez dans votre blog. Je vous cite donc. « L'autre jour, en rentrant de voyage, je suis ressorti les mains vides de la librairie malgré la perspective d'un long trajet en RER. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que la ribambelle des unes échouait à éveiller mon désir. Si cette offre ne me tente pas, c'est parce que mes propres outils de sélection des sources m'éloignent des récits médiatiques les plus courants qui perdent de leur pertinence à mes yeux. J'ai donc passé, poursuivez-vous, mon trajet à lire, à commenter mes flux Facebook et Twitter. C'est une activité moins confortable que la lecture d'un magazine compte tenu de l'étroitesse de l'écran et de mon smartphone et d'une connexion 3G parfois fluctuante, c'est vrai, dans le train. Mais néanmoins plus satisfaisante que la consommation d'un support d'information non interactif. Alors, j'avais envie de vous poser une question tout de suite pour entrer dans les travaux pratiques de notre thème. En quoi ce voyage fut-il différent de celui que vous auriez effectué si vous aviez trouvé de quoi éveiller votre désir dans le relais H du RER? Qu'avez-vous appris que vous n'auriez pas pu acquérir en achetant des journaux? Et aussi peut-être à quoi avez-vous échappé? Qu'est-ce que vous avez peut-être éventuellement aussi raté en ne les lisant pas?
Alors, peut-être pas très différent sur, en tout cas, l'information consommée, puisque globalement, celle qu'on trouve sur les réseaux sociaux, leurs sources sont majoritairement, encore aujourd'hui, les organes de presse institutionnels.
Je note encore aujourd'hui.
Voilà, on est dans une situation de transition évolutive. Mais peut-être la première remarque que je pourrais glisser, c'est que ces consommations culturelles, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'elles sont le fruit d'habitudes et de rites. Et ces habitudes, elles prennent en principe assez longtemps à changer. Et quand elles changent, il faut que ce soit vraiment pour de bonnes raisons. Donc effectivement, consulter, c'est un billet d'il y a déjà quelques temps, consulter un smartphone avec un écran un peu petit, moi qui ai la vue qui baisse, il faut que j'ai une vraie utilité, une plus-value, hein, dans quelque chose qui, disons, ne va pas m'apporter le même confort. Alors la plus-value, c'est évidemment la conversation, c'est-à-dire le fait de ne plus être simplement un consommateur de l'information et de l'actualité, ce qui est la position traditionnelle dans laquelle nous mettent les journaux, les quotidiens ou la télévision, mais de rentrer dans quelque chose de plus interactif, puisque le flux de ma timeline, d'abord c'est moi qui me le suis constitué, ce sont les amis ou les contacts que j'ai choisis, de sorte que l'information qui m'arrive en transitant par eux, elle prend une couleur, elle prend un effet de contexte. J'ai une amie, par exemple, qui est très sensible aux questions du sexisme, du machisme, et qui donc retweet souvent les informations qui dénoncent ces effets. Donc, quand une information me vient par cette source, eh bien, elle va porter la couleur de cette amie, hein, le regard particulier qui déjà est une mise en contexte, qui vaut bien finalement un chapeau. Et voilà, je pourrais lister les spécialités.
Alors, vous gagnez la conversation, vous gagnez la couleur. Qu'est-ce que vous perdriez éventuellement, si vous voulez aller...
Je pensais que vous alliez me poser cette question. Alors, j'ai bien réfléchi. Et à vrai dire, je n'ai pas trouvé quoi vous répondre. Je pense
parce que vous
que
ne
je
savez peut-être
rien.
Pas ce que vous avez perdu.
Voilà, on pourrait répondre ça. Non, en réalité, je ne pense pas que je perde quoi que ce soit. Parce que ces univers sont homogènes. Vous voyez, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le flux du web, il vient répondre de façon très très exacte à des impératifs qui ont été fabriqués par les médias. Pensez à la dictature du temps réel, hein, quelque chose qui s'installe au 19e siècle avec le quotidien, donc le rythme journalier de la presse qu'il faut consommer pour être au courant, et puis les médias de flux, la radio, la télévision, qui vont installer de façon souveraine cet impératif. Le web répond parfaitement de façon beaucoup plus satisfaisante encore, puisqu'aujourd'hui, c'est sur Twitter qu'on va regarder le résultat des élections, par exemple, une demi-heure avant qu'elles soient annoncées à la télévision. Donc, le web est parfaitement homogène avec l'univers des médias. C'est ce qui a permis, finalement, de changer de rite, de changer nos habitudes aussi vite, parce que, finalement, ça s'est fait dans un espace de temps très court.
On va revenir sur cet exercice comparatif, évidemment, avant d'évoquer le fond, quand même, de notre problématique. Réfléchir s'il n'y a pas quelque chose qui se modifie malgré tout dans notre rapport aux événements. Mais avant cela, et pour tous ceux qui, comme moi, ne seraient pas très familiers de ces nouveaux usages, de s'informer, peut-être un mot pour les décrire. Thibaut Henneton, bonjour.
Bonjour.
Responsable du site du Monde Diplomatique. Alors, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer, à tous ceux qui ne le pratiqueraient pas, comment l'information circule et comment on est en contact avec l'information à travers ces nouveaux modes de s'informer?
Bon, bah, je pense qu'il faut distinguer entre plusieurs outils qui sont disponibles pour consulter et lire de l'information. On peut d'abord parler, par exemple, des agrégateurs de flux RSS. Un flux RSS, c'est...
Alors, pour ceux qui ne comprennent rien, ça commence mal.
Je vais expliquer. Vas-y. Un flux RSS, c'est une méthode qui permet de s'abonner aux informations d'un site d'information qui nous arrive sous la forme d'un flux, sous la forme d'une liste. Vous connaissez le flux de l'AFP, par exemple, Antoine Mercier. Vous avez vos informations qui vous arrivent plus ou moins classées selon qu'elles concernent le Proche-Orient, l'Europe, la politique, l'économie, qu'elles sont plus ou moins urgentes. Eh bien, dans ces nouveaux dispositifs, le flux de l'AFP n'est plus qu'un flux parmi d'autres. Et donc, dans ces agrégateurs de flux RSS, on fait sa propre sélection personnelle en choisissant divers sites, divers blogs, divers publications. Et on peut ensuite consulter toutes les dernières nouveautés dans un petit logiciel. On pourrait aussi parler des agrégateurs, des portails d'information type Google News ou Yahoo News, qui sont là pour le coup des agrégateurs par algorithme. Donc un algorithme qui donc filtre les informations relayées par les médias habituels, hein, la plupart du temps, mais selon qu'ils sont plus ou moins évoqués par tous, ou qu'ils sont plus ou moins qu'ils font plus ou moins l'actualité ou le buzz, dirait-on. Ceci remonte et constitue une hiérarchie de l'information qui est un peu automatisée.
Automatisée en fonction quand même de ce que soi-même on a mis. Enfin,
non, là pour le coup, là ce sont les médias, les sites d'information en général, disons de la presse mainstream, qui sont scannés, dirait-on, par les algorithmes d'un Google ou d'un Yahoo. Et ce scan permet de trier l'information et de la hiérarchiser selon son importance
Voilà. André Gunther, vous vouliez préciser quelque chose?
Pour compléter, oui. Effectivement, Google hiérarchise aussi l'information en fonction des recherches de chaque usager. Hein. Donc, si vous allez souvent consulter des informations sur des sites de voitures, par exemple, Google va faire remonter cette information dans votre flux.
Là, je parlais plus de Google Actualité qui...
Oui, je parle bien de...
Google Actualité est personnalisé également.
Ah oui, oui. Voilà. On est sous surveillance.
Aude Baron, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef donc d'Eurosport.fr. Vous avez été une pionnière dans ce domaine qui s'est vraiment développé, on l'a dit, ces toutes dernières années. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter comme complément pour essayer d'expliquer comment ça se passe quand on s'informe par Internet et par les réseaux?
Surtout pour compléter ce que disait Thibault, après la brique des flux RSS et des portails d'information, maintenant, surtout pour en revenir au cœur de notre sujet, il y a les réseaux sociaux et en premier lieu Facebook. On parle aussi de Twitter. Alors en France, on va surtout parler de cela, mais il y en a encore d'autres qui émergent, comme Vine, comme Snapchat. Je ne vais pas tous les citer. Le principal changement, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus uniquement abreuvé d'informations par des médias dits traditionnels et par des journalistes, mais vous êtes abreuvé de diverses données. Je n'emploierai pas le mot information, mais de diverses données par vos pairs. Et du coup, plutôt que le journaliste...
Vos pairs, c'est-à-dire
C'est-à-dire par des citoyens, par vos amis, par votre voisin. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution des moyens technologiques, nous sommes dans un potentiel d'égalité d'accès à l'information et de diffusion de l'information. Il suffit que vous créiez un compte sur des plateformes comme Twitter ou Facebook pour pouvoir, à votre tour, diffuser une information et obtenir une certaine voix. Et ça peut, la force de frappe que vous pouvez avoir peut aller très vite, parce qu'on peut imaginer que vous, Antoine Mercier, vous créez un compte Twitter, donc au début, vous allez avoir 10 abonnés, peut-être quelques amis,
optimiste.
Des membres de votre famille. Mais il suffit qu'à un moment, vous délivriez un message qui est un impact fort, qui soit vu par un journaliste qui, lui, va avoir une résonance très puissante, qui va retweeter, donc relayer votre message, c'est-à-dire se le réapproprier et le diffuser, vous allez tout d'un
coup... Mais ça, c'est pas une façon de s'informer, c'est une façon de se faire connaître.
Alors, vous vous faites connaître, mais du coup, de fait, par effet de ricochet, vous informez, puisque le message que vous délivrez va pouvoir être diffusé à diverses communautés.
Alors on va continuer d'éclairer la question. On traverse l'Atlantique où on a toujours un petit clic d'avance, comme on sait, les géants américains. On en parlait, Twitter et Facebook contribuent largement à l'évolution de la manière dont nous nous informons. Information de plus en plus personnalisée, André Gunther le disait, grâce notamment au pouvoir des algorithmes. Charlotte Alix, vous êtes notre correspondante à New York et vous nous parlez précisément de cet exemple de Facebook.
D'après le Pew Center, 30% des Américains s'informent sur Facebook. Mais évidemment, Facebook n'a rien à voir avec un média généraliste. Le réseau social est devenu une sorte de journal personnalisé où les usagers, en fonction des médias qu'ils suivent, en fonction des amis qu'ils suivent, se voient proposer des articles qui correspondent souvent à leur centre d'intérêt ou leurs idées politiques. Alors derrière cette personnalisation, il y a des codes informatiques, les fameux algorithmes. Ces codes complexes se nourrissent de milliers d'indicateurs, par exemple le nombre de commentaires ou de likes qu'un article a généré, le temps que les lecteurs passent sur un article ou encore le type d'appareil utilisé pour se connecter à Facebook. Ces algorithmes qui décident donc quels articles apparaîtront sur votre newsfeed, ce que vous voyez lorsque vous vous connectez, sont ajustés, affinés chaque semaine par une petite équipe d'informaticiens. Ces derniers, dirigés par un petit génie de 27 ans, ont beau affirmer qu'ils n'ont aucun jugement sur les contenus, il n'en reste pas moins qu'ils sont ceux qui s'approchent le plus d'un rédacteur en chef personnel qui trie, qui filtre, qui sélectionne l'information en fonction de ce qui pourrait vous intéresser.
Alors, cette nouvelle vague d'agrégation personnalisée de l'information est en train de bouleverser le paysage médiatique. Comment est-ce que les médias traditionnels aux États-Unis, notamment, s'adaptent à cette nouvelle donne?
Ces médias traditionnels commencent à réaliser le pouvoir que détient Facebook. Alors plutôt que de lutter contre, ils réfléchissent à la meilleure manière de tirer profit de cette nouvelle donne. Le New York Times, BuzzFeed, NBC News ou encore National Geographic ont par exemple conclu des accords avec la firme de Mark Zuckerberg pour améliorer l'expérience des usagers en termes de lecture. Alors que la plupart des articles qui apparaissent sur Facebook sont en fait des liens qui renvoient vers le site internet du média, les articles postés par ces médias peuvent maintenant être lus directement sur le réseau social grâce à une nouvelle fonction appelée Instant Articles, articles instantanés en français. Les premiers retours des médias sont positifs. Certes, le trafic vers leur site internet est en baisse, mais pas leur nombre de lecteurs. Le Washington Post résume ainsi les choses. On échange un type de trafic pour un autre. Et le quotidien espère, au bout du compte, toucher une audience plus large. D'autres médias expérimentent aussi. C'est le cas de la radio publique américaine NPR, qui discute depuis des années avec Facebook sur la possibilité d'intégrer du son sur le réseau social. Et bien, à partir du mois prochain, des petits clips audio extraits d'émissions de NPR seront introduits sur la plateforme. Là aussi, l'objectif est de connecter un média traditionnel avec une nouvelle audience.
Question dont on va reparler dans un instant sur ces algorithmes de Facebook. Est-ce que ça risque pas, évidemment, d'enfermer les usagers dans une sorte de carcan idéologique personnalisé?
C'est toute la question. Certains pensent que oui, qu'à force de filtrer, nous ne recevons que des informations que nous aimons, avec lesquelles nous sommes d'accord, et moins d'informations qui mettent nos croyances à l'épreuve. Ces filtres nous donnent l'impression que le monde se limite à nos intérêts personnels. La perte d'une information commune nous rendrait hermétiques, moins aventureux intellectuellement et plus vulnérables à la propagande et la manipulation. À cet argumentaire, d'autres répondent que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la principale source d'information des citoyens se limitait à la presse locale et à la limite à un ou deux grands titres nationaux qui finalement n'offraient qu'une information somme toute consensuelle. Internet offre à l'inverse un espace quasi infini de choix et il ne faut pas croire que parce que les gens ont plus d'options, eh bien ils vont forcément choisir de vivre dans un carcan.
Charlotte Alix, merci beaucoup, notre correspondante à New York.
Le secret des sources, Antoine Mercier.
André Gunther, une petite question sur ces algorithmes qui sont, on le voit, centraux finalement dans cette discussion. On pourrait presque dire que les nouveaux médias nous lisent plus que nous les lisons. Est-ce que ce n'est pas un problème à partir du moment où s'informer, c'est tout de même recueillir quelque chose qu'a priori on ne connaît pas et qu'on veut savoir?
Oui, mais la bonne question, c'est quelles sont les sources? Quelles sont les sources crédibles? Quels sont les vecteurs d'autorité? Et aujourd'hui, le phénomène auquel on a affaire, c'est à une explosion du nombre de ces sources. Parce que, encore une fois, un ami que je connais bien et qui, mettons, est spécialiste d'Internet, voilà. J'ai parmi mes contacts ce type d'expert. Il est évident que l'avis qu'il va me donner sur un débat quelconque lié à Internet, je vais l'écouter avec autant d'attention et peut-être plus même qu'un journaliste comme un journaliste spécialisé. Donc, il faut bien comprendre que comme les bouquets de contacts, appelons-les comme ça, hein, sont à notre main, c'est nous qui les fabriquons sur les réseaux sociaux. Donc on enlève quelqu'un qui nous a déplu ou dont on trouve tout simplement l'information ennuyeuse, et puis on va préférer, on peut s'échanger des contacts avec différents degrés de spécialité. Donc l'ensemble de ces sources constitue effectivement quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers aussi que les anciennes sources d'information, et en particulier qui ont l'effet principal, je pense, de cette mixité que produit les réseaux sociaux, c'est le mélange au sein d'un même flux, d'une même source d'information unique, la timeline, d'informations institutionnelles, d'articles issus de la presse sous forme de liens, et d'informations personnelles qui peuvent être les photos de mon chat, les commentaires à propos d'un dîner ou n'importe quelle autre forme conversationnelle qui va rentrer donc dans le flux, ce qui produit quelque chose à quoi on a encore jamais été confronté, c'est-à-dire le mélange l'information publique et des données privées est aujourd'hui quelque chose qui reconfigure complètement notre rapport à l'information.
Et ça pose pas un problème du tout, à votre avis? Ça pose pas un problème? On va
faire une partie critique. Ça peut en poser, bien sûr. On est en train d'apprendre comment ça fonctionne et à imposer des tris, mais on voit bien que, par exemple, un des effets que ça produit, c'est que ça fait remonter de l'information privée, puisque nous lisons les timelines comme, effectivement, des sources d'information équivalentes à celles produites par les médias. De sorte que c'est ça qui produit la viralité des contenus privés. Le fait d'avoir, mettons, une vidéo de chaton. Je reste sur cet exemple.
Prenons un exemple.
qui est pour plein de raisons, hein. En particulier l'innocuité de ce type de contenu. Hein, oui, parce qu'il faut bien imaginer que sur Facebook, c'est une sorte de. La comparaison que je ferais le plus volontiers, c'est avec une table d'amis à dîner, hein, où vous êtes 12 autour de la table et où on essaye quand même de faire attention aux opinions politiques du voisin de droite, aux convictions religieuses du voisin de gauche. Et donc, voilà, sur Facebook, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Et c'est pour ça que les chatons ont autant de succès. Mais la vidéo de chaton qui est, disons, le modèle d'une information futile et sans intérêt, hein, si effectivement elle circule et si elle atteint un degré de viralité sur le réseau social, c'est parce qu'elle a suscité un intérêt au sein donc de votre groupe d'amis. Et donc
là, il faut changer d'amis tout de suite.
C'est aussi une conclusion qu'on peut avoir.
On salue la chroniqueuse du Secret des Sources, Isabelle Vera-Masson. Bonjour.
Bonjour.
Votre chronique a pour thème c'est moi qui lui ai donné ce titre, comment la verticalité réinvestit l'horizontalité dont on parle dans l'information. On a eu un exemple cette semaine avec l'intervention de Manuel Valls sur Facebook à propos de la réforme constitutionnelle.
Oui, alors j'ai le défaut de tous les historiens, de toutes les historiennes, c'est que je vois ce qui se passe, enfin les rapports entre le présent et le passé. Et par exemple, pour reprendre ce que disait André Gunther, ce qui me frappe beaucoup, c'est ce sentiment qu'on a tous eu, que l'information s'ouvrait à un moment donné. C'était le cas à l'arrivée des satellites. On s'est dit que le monde entier allait arriver chez les gens. Et en réalité, ils se sont servis du satellite pour regarder leur télévision locale de Tunisie, Maroc ou Chine, etc. Donc, ne rêvons pas, on a tous tendance à chercher dans sa famille, dans sa région, dans sa petite patrie, de quoi s'informer. Et finalement, c'est extrêmement difficile d'ouvrir les esprits. Et de la même manière, j'ai été frappée aussi que au moment où on parle d'horizontalité, où tout d'un coup, la démocratie parfaite semble arriver, puisque chacun peut intervenir, chacun peut parler, chacun peut savoir ce qui se passe, eh bien, on a eu le retour très récemment, de manière très frappante l'année dernière, par la formation de type propagande. C'est-à-dire Manuel Valls se sert de l'horizontalité pour délivrer un message extraordinairement clair dans le sens de il dit ce qu'il pense qu'il faut penser, ce à quoi il croit, et avec une phrase qui commence de manière assez claire. Je ne peux laisser tout dire sur la déchéance de nationalité, revenons-en aux faits. Le fait venu d'un Premier ministre, c'est de la propagande. C'est-à-dire c'est vraiment une vision très verticale de l'information. À l'intérieur de Facebook, dans l'horizontalité parfaite, au milieu des chats, de l'éditorialisation, ce que décrivait André Gunther, c'est finalement une éditorialisation des informations. C'est-à-dire que nos copains, nos amis, nos experts vont nous proposer un éditorial et ce qui va nous faire rentrer dans l'information, eh bien, il va y avoir le message le plus traditionnel, qui est le message du pouvoir.
Et pourquoi il choisit ça, Valls? À votre avis,
pour être dans le coup, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois l'envie d'intervenir sur les nouveaux moyens de communication, et puis il y a aussi probablement l'idée que lorsqu'on intervient dans un média qui a une vertu, une réputation démocratique, eh bien, on va profiter de cette bonne ambiance, de ce bon esprit. Donc, ils se dépropagandisent en intervenant dans un réseau, enfin, dans un mode d'information horizontal.
Un petit commentaire d'Aude Baron ?
Oui, je crois qu'au-delà de la propagande, surtout, c'est que Manuel Valls a choisi Facebook parce qu'il fait de la communication. S'il était intervenu sur un média dit traditionnel, il serait soumis au process de l'information parce qu'il se retrouverait face à un journaliste, éventuellement face à une contradiction, une remise en question, tandis que là, les réseaux sociaux permettent à quiconque, et en particulier aux personnalités politiques, d'intervenir directement et donc de faire de la communication. Et on en revient, est-ce que je fais de la communication ou de l'information? Facebook permet de faire les deux.
Bon, on n'en est pas encore au chaton de Manuel Valls.
Freedom, do you recall? No long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young.
C'est comme ça qu'on
beat in my trumpet like dum-di-di-di. I love the dirty
Voilà un extrait du groupe L.E.J. L.E.J. pour Lucie, Elisa et Juliette, qui s'est notamment fait connaître évidemment par internet, par Facebook. André Gunther, dans un article récent qui s'intitulait « Pourquoi la conversation l'emportera ?» Les reconfigurations de l'information, vous écriviez que les réseaux sociaux remplaçaient notre journal quotidien parce que la pertinence de la recommandation du groupe d'amis à l'heure de l'individualisation des intérêts et des goûts se révèle supérieure à celle d'une marque de presse. Alors je souligne dans ce texte « à l'heure de l'individualisation des intérêts et des goûts ». Est-ce que cette individualisation des intérêts et des goûts n'est tout de même pas une manière de décrochage par rapport à ce qui est constitue un collectif, se constitue un monde commun, et qui fait que précisément parce qu'il y a un décrochage du monde commun, cette information-là qui nous vient horizontalement nous satisfait, mais nous abandonnons peut-être une autre dimension qui est précisément celle qu'on avait avant de façon peut-être insatisfaisante, mais malgré tout globale, et qui se marquait notamment par l'exhaustivité que les journaux, les titres de presse s'obligeaient à avoir et s'obligent toujours à avoir.
Alors, exhaustivité tout de même, encore une fois, comme ça a été dit, la consommation traditionnelle d'un individu, elle se limite à un quotidien.
Qui n'est pas forcément tout.
Voilà, hein, si vous lisez Le Figaro, ouais, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes informations que si vous lisez
Il y a un critère d'exhaustivité quand même, même si, voilà, bon, sur le choix.
Non mais, je veux dire, on parle des bulles pour Internet, voilà, et il y a eu des analyses qui l'ont montré, il y a des effets de bulles. En particulier sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'analyse de l'effet de bulle d'avant. Hein, c'est-à-dire quand quelqu'un écoutait une radio le matin, lisait un journal, regardait la télévision le soir, et voilà, ajoutons à ça un hebdomadaire, ça fait quatre sources d'information. Je pense que l'effet de bulle, il est tout autant constitué. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que tout ça se passe au sein d'une évolution culturelle elle-même extrêmement complexe, qui est une évolution vers l'autonomisation des consommations culturelles. On le voit aussi bien à la télévision, par exemple, qui explose avec la télévision numérique, il y a de plus en plus de chaînes. Il y a l'offre, même au sein de l'industrie culturelle et des médias, a été multipliée par un facteur 100 en l'espace de quelques années. Donc les réseaux sociaux et l'atomisation qu'ils produisent, elle s'inscrit effectivement dans ce contexte et elle vient finalement compléter cette chose-là. Alors bien sûr que d'un côté, on perd quelque chose de l'espace commun. Maintenant, il faut aussi préciser que l'espace commun, c'est aussi un espace complexe où il y a la propagande, comme le rappelait Isabelle Ramasson, où il y a la publicité de masse, hein, on vient de là. L'espace commun, c'est celui des industries culturelles de masse des années 60. Hein. Donc, on y gagne et on y perd. Hein. C'est une négociation compliquée. En tout cas, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, on est bien dans ce mouvement d'atomisation et de perte, en effet, de difficulté, hein, de constitution d'un espace commun, de quelque chose qui est, je dirais, un espace commun qui devient de plus en plus ponctuel. Parce que on a pu vérifier avec les événements de cette année, le 11 janvier, le 13 novembre, que l'espace commun n'a pas disparu. Et au contraire, les réseaux sociaux, à ce moment-là, hein, redeviennent des outils de constitution et d'investissement de l'espace commun. Mais c'est vrai qu'il devient de plus en plus ponctuel. Hein, il se réduit à des petits moments de communion au-delà desquels, effectivement, l'atomisation règne.
Thibaut Henneton, sur cette question de la bulle, de l'enfermement dans une bulle,
ouais, la bulle de filtre, c'est quelque chose. Il y a d'autres études qui sont parues pour démontrer un peu à l'inverse que les gens qui consommaient beaucoup d'informations, donc ça concerne surtout ceux qui sont très très demandeurs d'informations, sont au contraire sensibles aux informations dont ils sont a priori les plus éloignés. Donc ça, c'est une chose pour tempérer cet effet bulle de filtre.
Vous parlez des journalistes ou vous parlez
pas forcément des gens qui sont intéressés. Ceux qui consomment le plus d'informations sont les moins enclins à buter contre cette bulle de filtre. Après, il est certain que les grandes plateformes du numérique comme Facebook ont tout intérêt à fabriquer ces bulles de filtre au sens où elles ont tout intérêt à créer du consensus, à ce que les gens se retrouvent dans les publications qu'ils vont lire, car ainsi ils s'assurent de leur présence sur la plateforme et donc de la possibilité de leur vendre des publicités. Car si on disait qu'avant l'espace commun était soumis à la publicité de masse, on peut pas dire que sur Facebook ça ait disparu, loin de là.
Si c'est tout ce qui reste de la masse, c'est un peu embêtant quand même.
C'est vrai. Ensuite, oui, je voulais juste dire quelque chose sur cette histoire d'algorithme de Facebook. Il y a une étude. Pareil, une étude assez récente qui disait que la majorité des utilisateurs de Facebook n'auraient pas conscience du fait que l'information qui leur est proposée est triée par un algorithme. Ce qui est quand même assez inquiétant quand on sait que les paramètres pour déterminer la hiérarchie d'informations sur cette plateforme se comptent
qu'est-ce qu'ils s'imaginent alors ? Ils s'imaginent quoi ?
Ils s'imaginent que l'information leur arrive chronologiquement ou qu'ils vont être soumis à l'ensemble des choses qui sont partagées par leurs amis quand il n'y a en fait qu'une toute petite proportion des publications du réseau d'amis qui apparaissent sur le flux.
Sachant qu'il y a les algorithmes, mais il y a aussi l'argent qui rentre en jeu, puisque Facebook c'est bien beau, mais à un moment le nerf de la guerre c'est l'argent, et Facebook a besoin de générer des revenus, et l'un de ces revenus, il y a d'une part la publicité, on vient d'en parler, et d'autre part pousser les médias qui voudraient une mise en avant à payer pour être mis en avant. Donc aujourd'hui, quand vous êtes face à votre écran et que vous voyez tous ces statuts Facebook, vous voyez régulièrement un petit mot sponsorisé. Parce que justement, ce sont des Facebook en fait a modifié ses algorithmes de sorte que Facebook a identifié les acteurs sur le numérique qui potentiellement ont les moyens de payer pour être mis en avant. Qui en premier lieu, les médias. Donc du coup, les médias qui ne payent pas mais qui auraient la force de frappe de payer sont moins mis en avant. Donc nous, je peux vous dire que ça s'est produit au cours de l'année 2015. On l'a rapidement senti. Non, c'est de la. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez quelques alors, euros dans la machine.
Dites-nous un peu concrètement cette situation que vous avez vécue.
Concrètement, quand vous êtes un média, vous avez votre page de fan Facebook, vous publiez un statut, et en général, si vous ne payez pas, en gros, vous allez être mis en avant par deux principaux leviers. Un qui va être un cercle vertueux ou vicieux. Alors, on va parler de vertueux parce qu'on a envie d'être performant et de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que plus vous allez avoir du succès, plus Facebook va vous mettre en avant parce que Facebook va considérer que vous êtes un acteur pertinent. Parce que vous faites réagir la communauté. Et si vous faites réagir la communauté, c'est bon pour vous, médias, mais c'est bon aussi pour Facebook parce que vous générez une activité. Et à contrario, si vos statuts Facebook ont peu de succès, vous allez être moins mis en avant. Et du coup, si vous voulez toucher, par exemple, un public spécifique qui soit géolocalisé. Vous voulez toucher uniquement des Parisiens. Vous voulez toucher uniquement des gens, moi en l'occurrence, mon dada, c'est le sport en ce moment, des gens qui s'intéressent au rugby et qui s'intéressent plus spécifiquement à la Coupe du Monde de rugby. Donc je vais pouvoir paramétrer pour toucher des Parisiens qui s'intéressent à la Coupe du Monde de rugby. De même que vous allez pouvoir aussi payer pour qu'un statut apparaisse de manière systématique dans le flux de l'ensemble des utilisateurs. Donc tout ça, c'est une question d'argent, d'algorithme et d'argent.
Alors André Gunther, je voudrais revenir vers vous, puisque vous disiez, toujours dans ce même article, je crois, le journalisme des news a été l'instrument d'un capitalisme régulé. Donc question, est-ce que ce nouvelle manière de faire n'est pas l'instrument d'un autre capitalisme, cette fois dérégulé, sur cette question d'argent ?
Oui, je crois qu'on assiste tout à fait, là aussi, à ce type d'évolution qu'on constate. Hein. Moi, je ne juge pas. On parle volontiers, aujourd'hui, d'ubérisation, d'un peu tout, d'ailleurs, hein, du journalisme. Effectivement, on assiste... Alors ça, il faudrait... C'est pas à moi d'en parler, il nous faudrait un économiste pour décrire de façon plus pertinente le progrès de la dérégulation et du diktat de la compétitivité. Un autre nom de l'ubérisation, c'est finalement simplement la compétitivité, qui est en train de modifier notre relation au travail pour chacun d'entre nous. Ça touche tous les univers à des rythmes différents et avec des effets de pression différentes. Mais il ne faut pas croire que ça concerne que les taxis.
Ce terme-là, l'ubérisation, justement, on peut s'y arrêter juste une seconde. Qu'est-ce que c'est que l'ubérisation ? Comment ça se caractérise ?
Je pense qu'une façon correcte de le définir, c'est la disparition de toute forme de protection ou de régularisation. Donc c'est un chemin vers l'esclavage. Hein, on va le dire simplement. Bah oui, non mais
c'est l'ensauvagement, les rapports sociaux. C'est tout d'un coup, on ne respecte plus effectivement les temps de travail, les réglementations, le fait d'avoir payé ou pas une charge. Voilà, c'est un ensauvagement véritablement des rapports sociaux qui a des avantages puisqu'il y a des gens qui ont du mal à vivre et qui du coup ont deux boulots. Et évidemment, les inconvénients qu'on imagine. Il y a aussi des gens qui travaillent 24 heures sur 24, ce qui est atroce. Voilà donc.
Alors une deuxième critique peut-être qui est un peu la réciproque de la première sur la bulle, c'est la disparition, on va dire, de la potentialité, on en parlait dans votre premier exemple, de découvrir autre chose que ce que l'on aurait soi-même visé, comme cela peut se produire quand on ouvre on feuillette les pages d'un journal. Est-ce qu'on n'en est pas au degré zéro de sérendipité et est-ce qu'on ne perd pas quelque chose d'essentiel en perdant l'altérité complète?
André Gunther, je vais vous dire très franchement, je ne crois pas. Je garde un souvenir assez précis de mes habitudes et de mes rites de consommation médiatique d'avant Internet. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, à peine une petite dizaine d'années. Et donc, la comparaison est absolument sans appel. Il n'y a pas photo, comme on dit. J'ai aujourd'hui accès à des sources immensément plus nombreuses et surtout plus diverses, avec, par exemple, on n'en a pas parlé, mais on parle de sources institutionnelles et de la presse, mais il y a aussi les blogs, hein, qui ne sont pas du tout morts, comme on le dit, mais qui profitent des réseaux sociaux pour accéder à une nouvelle forme de viralité. Et donc, cette diversité-là, qui n'existait pas il y a 10 ans, quoi qu'on en dise, elle est aujourd'hui à portée de main avec, comme on l'a dit, le sel de la conversation.
Hein,
c'est-à-dire quelque chose qui est aussi une capacité d'intervenir.
À portée de main de André Gunther. Comme
non, de
Thibaut
n'importe
Hinton
quel commentateur qui peut critiquer,
oui,
venir critiquer sur mon blog ou moi sur celui d'un autre ou sur un article de presse pour donner son avis, pour donner son opinion. Et ce qui fait de nous, c'est très important, nous avons aussi changé de position par rapport à l'information dont nous ne sommes plus de simples consommateurs, mais désormais des partenaires.
Mais ce qui est vrai, c'est que ça réclame une sorte d'exigence critique de tous les instants, peut-être davantage que par le passé, et sans doute davantage que lorsque on a un présentateur qui nous fait un journal structuré avec où l'on sent percer
vous
sa vision du monde. Je ne sais pas, par exemple, le journal de 12h30 de France Culture. En tout cas, là, il y a une sorte de... En fait, c'est presque, il faudrait presque avoir le réflexe journalistique à tous les instants, sans arrêt se demander d'où ça vient, et puis remonter comme ça le fil hiérarchique. C'est pour ça qu'en fait, cette horizontalisation ou cette horizontalité, elle abolit aucunement les hiérarchies, et on retrouve des verticalités à tous les moments. Seulement, il faut une sorte d'attention critique de tous les instants pour les repérer et percer cette apparence d'horizontalité qui se donne un peu spontanément comme ça.
Cette attention critique, le problème, c'est quand même une exigence considérable pour un citoyen, on va dire, qui n'a pas forcément le temps ni l'occasion de faire ce travail. Il est en situation de faiblesse par rapport à la puissance du système.
Mais ça ne tient pas à la technologie.
Mais surtout, je crois que c'est une question d'apprentissage. De même qu'on nous apprend à lire un livre, que quand on est petit, on apprend à écouter la radio, on regarde la télé avec ses parents. Face à l'écran, il faut aussi apprendre. Là, nous sommes autour d'une table, on ne se coupe pas la parole les uns les autres, on se respecte, on se regarde. Quand on est sur Internet, sur un réseau social, c'est exactement la même chose.
Parfois, le ton est un peu plus vif quand même.
Le ton est vif, mais le ton ici, le ton est très cordial. Vous allez sur des radios voisines, le ton est beaucoup plus vif. Donc ça dépend aussi de là où vous allez.
André Gunther,
c'est intéressant que vous remarquiez le ton est vif. Ça rentre en contradiction avec l'idée de bulle. Vous êtes d'accord que si vous avez une conversation qui est
pas évident, ce que vous dites quand même.
Ben si.
Non, parce que si si vous avez personne en face de vous, vous
troll, avez. C'est le témoignage du fait que la bulle, elle est quand même très très perméable. Hein. Tant que vous avez, on va le dire autrement, si vous n'êtes jamais irrité par une conversation sur Facebook, alors faites attention, vous êtes dans une bulle.
Alors, une de Libé, il y a une dizaine d'années, je crois, tous journalistes. On va s'intéresser maintenant à la profession, si vous voulez bien. Quelle place le journalisme dit professionnel dans ce nouveau système? Alors, avant de vous redonner la parole sur ce thème, je vous propose d'entendre quelques échos d'interventions professorales dans le cadre de la licence web journalisme de l'Université de Lorraine.
Inventez-vous votre métier. Si vous avez envie de devenir journaliste, il va falloir que vous apportiez des idées, plus que ceux qui ont les moyens.
L'avantage du web par rapport à une formation classique pour le journalisme, c'est que je pense que Internet, c'est un support de créativité fabuleux. On peut faire des tas de choses. Pour peu qu'on acquiert les compétences multimédia, pour peu qu'on touche un peu, on bidouille, pour peu qu'on ait un regard attentif à tout ce qui se passe.
Il faut pouvoir réagir rapidement sur des événements. Même si on n'est pas toujours dans le rush, il y a des événements qui font que on doit ne pas perdre tous les principes de rigueur et quand même alimenter rapidement.
C'est quoi un journaliste ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un diplôme de journalisme ?
La plupart des journalistes sont dirigés par des gens qui sont obsédés par la reprise, la dictature du buzz et toutes ces choses-là.
Les questions, c'est comment je travaille, où est-ce que je fixe mes limites ? Quelles sont les choses que faire, quelles sont les choses que je refuse de faire.
Les vieux schnocks technophobes, les quarantenaires ou les cinquantenaires complètement bouchés, qui sabotent l'adaptation, qui sabotent l'évolution de la presse française. Ces gens-là, bon, ils vont tenir jusqu'à 67 ans parce que la retraite va les obliger à rester là, mais ils seront neutralisés, ils seront évacués.
La deuxième qualité qui peut être intéressante, c'est la créativité, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à créer sur le web, même si les sites d'info commencent à avoir 15 ans, voire 20 ans, il y a encore plein de nouveaux formats qui se créent.
Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas de reproduire ce qu'on faisait hier, mais c'est d'inventer ce qu'on fera demain.
Extrême, monté par Alexandre Motto. Aude Baron, on a reconnu la voix de Jean-Marie Charon, les auditeurs du Secret des Sources l'ont peut-être reconnu. Alors vous êtes d'accord avec la tonalité de ses propos sur les vieux schnock technophobes qu'il va falloir quand même mettre un peu au rencard?
Non, je crois. Disons que tout est une question, une fois de plus, d'éducation et d'évolution. Après, surtout, moi ce qui me fait réagir, c'est l'expression « tout journaliste ». Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une horizontalisation de l'information. Oui, aujourd'hui, potentiellement, chacun peut accéder à des moyens de diffuser des données, mais je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes, simplement le métier évolue. Parce que face à cette profusion de données, nous avons justement besoin de journalistes qui fassent le tri, qui vérifient l'information. On l'a vu encore récemment avec les attentats de Paris. Tout d'un coup, sur Twitter, des citoyens balancent plein d'informations, et on a vu notamment à Paris où il y a eu des rumeurs sur des fusillades, etc. Et il a fallu l'intervention de journalistes pour recadrer les choses et dire non, attention, ces données, ce sont des rumeurs et non pas des informations.
André Gunther, est-ce qu'il faut se reconvertir en tant que journaliste ou...
Non, pas du non. tout. Je pense que ça serait idiot d'opposer frontalement journalisme et réseaux sociaux. C'est le contraire qui se passe. On a des phénomènes d'adaptation. Moi, je parle de reconfiguration de l'information. Effectivement, on a des hiérarchies qui se modifient. Mais la hiérarchie de l'information, nous en avons tous besoin. Et donc, ce qu'on voit très très bien, l'exemple de la photo du petit Aylan, pour moi, est un très bon exemple de réinvestissement par les médias traditionnels de l'espace du web, et y compris de l'espace de la viralité et du buzz. Parce que ce sont les agences de presse officielles qui ont fait d'abord circuler la fameuse photo du petit garçon sur Twitter pour précisément tester en quelque sorte la réaction des internautes, qui n'a pas manqué. Donc là, pour moi, on voit comment les médias classiques s'adaptent à la nouvelle situation et s'intègrent d'une façon très satisfaisante, finalement, dans ce nouvel univers.
C'est ce que vous avez fait, vous, Thibault Henneton, après vos études de journalisme.
Non.
Vous êtes responsable d'un site.
Oui, mais non, ce que je voulais dire sur cette question, c'est que aujourd'hui, sans doute, le journaliste se confond de plus en plus avec un publiciste. Il a aussi besoin de mettre en scène davantage l'information qu'avant. Et puis, je voulais aussi terminer par cette citation qui dit que les technologies dans lesquelles, avec lesquelles on est, nous paraissent familières, celles qui sont inventées entre nos 15 et 35 ans nous paraissent révolutionnaires, et celles qui apparaissent au-delà de nos 40 ans sont contre nature.
Merci beaucoup. Oui, j'ai un petit mot vraiment parce que
je
vais terminer.
Très vite, je vais tout simplement dire que ce qui est intéressant, c'est que tout cela n'empêche pas une méfiance énorme à l'égard des médias et la multiplication des comploteurs. Et très franchement, c'est quelque chose que je n'arrive pas franchement à comprendre. Comment à la fois on est aussi informé, aussi bien informé, avec des moyens de se repérer, et qu'en même temps tout le monde doute.
Tous ces chatons, effectivement, il y a sûrement un
les
complot derrière.
Les chatons et les comploteurs.
Merci
et
beaucoup.
Et ça, c'est possible.
Isabelle Vérin-Masson, merci André Gunther, merci Thibault Henneton, merci Aude Baron. On termine cette émission par un clin d'œil, comme à l'accoutumée, c'est Yacine Bouzard qui le signe.
Mes chers amis, vous qui êtes ici,
vous qui me regardez de loin, de plus loin même. Je suis venu vous parler de la France.
En de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond. Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit. Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était « nouveau ». Et vous, vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit, comme une sorte de baume calmant.
Je vais vous confier mon secret. Ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens. Je prends chaque regard comme une attente, chaque sourire comme une chance.
Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit, la nostalgie. C'est subtil, mais très puissant.
J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Je remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Ma mère, parce qu'elle avait l'âme généreuse et qu'elle m'a transmis ce qui est de plus beau, l'ambition d'être utile.
Voilà, clin d'œil, un tantinet ravageur de Yacine Bouzard qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. Fin de cette émission réalisée avec Laurence Millet et la collaboration d'Alexandre Agège. Bonne année à tous et dans un instant, le journal avec Mathieu Laurent, puis réplique d'Alain Finkielkraut qui a beaucoup de followers mais pas encore à ma connaissance de compte Twitter. Ce sera peut-être pour cette année. Espérons. Au programme, Simon Less, éducateur avec Pierre Bonsen et François Sureau.
Un flux RSS, c'est une méthode qui permet de s'abonner aux informations d'un site d'information qui nous arrive sous la forme d'un flux, sous la forme d'une liste. Et donc, dans ces agrégateurs de flux RSS, on fait sa propre sélection personnelle en choisissant divers sites, divers blogs, divers publications. Et on peut ensuite consulter toutes les dernières nouveautés dans un petit logiciel.
Le principal changement, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus uniquement abreuvé d'informations par des médias dits traditionnels et par des journalistes, mais vous êtes abreuvé de diverses données, je n'emploierai pas le mot information, mais de diverses données par vos pairs.
Nous lisons les timelines comme effectivement des sources d'informations équivalentes à celles produites par les médias. De sorte que c'est ça qui produit la viralité des contenus privés.